Bon après-midi, merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde consacrée non seulement à l'idéologie du gouvernement, mais à l'espace du gouvernement. Et je ne vais pas perdre ni votre temps, ni le temps des participants à cette table ronde en donnant tout de suite la parole à Madame Florence Bistagne, qui n'a pas pu nous rejoindre ici en présentiel, mais comme un peu d'habitude dans les derniers mois, on l'écoutera par le biais de l'ordinateur. Florence, bon après-midi, c'est à toi. Si, je ne sais pas si tu m'entends.
Florence, tu peux y aller.
D'accord, je vous entendais, je n'entendais que très très loin Raphaël, mais bon, voilà, donc merci.
Je ne peux pas être là avec vous,
mais je tenais absolument à participer à cette table ronde sur gouverner à distance, parce que je suis spécialiste d'histoire linguistique, et en fait, les problématiques du gouvernement à distance, à un moment donné, elles s'affrontent à un problème qui est technique, qui est vraiment dans la matérialité la plus basse des choses. Qu'est-ce qu'on écrit, comment on écrit, en quelle langue on parle et comment on se fait comprendre. Ce sont des problématiques qui sont anciennes, qui sont très contemporaines aussi, hein, bien entendu. Comment je suis sûre que la personne en face de moi comprend ce que je lui dis, et qui sont très prégnantes sur les périodes anciennes, puisque notamment lorsque des systèmes politiques se déploie sur plusieurs aires linguistiques. Moi, je suis spécialiste d'histoire, on va dire, italienne, avec des guillemets, puisqu'en fait, je m'occupe du XVe siècle et je m'occupe de la seconde partie du XVe siècle, du royaume de Naples. Je vous ai mis une carte qui est intéressante, parce que c'est une carte qui vous montre à quel point la réflexion sur ce qu'est le royaume aragonais, notamment dans sa plus grande extension, c'est-à-dire au XVe siècle, échappe aux logiques qu'on a l'habitude de voir, qui sont des logiques, comme disait Fernand Braudel, par isme, c'est-à-dire l'isme espagnol, l'isme français, l'isme italien. Et là, on voit qu'on a des domaines qui sont à la fois non contigus, comme vous pouvez voir, hein, pour passer de Catalogne à Marseille, mais il y a un trou, pour passer de Marseille à Naples, il y a un trou, et pour passer de Naples à la Grèce continentale, pareil, il manque des morceaux. Donc, on a un royaume qui est à la fois extrêmement cohérent, puisqu'il est sur tout le bassin méditerranéen d'ouest en est, mais on a un royaume qui a des possessions éclatées, et dont la plus grande extension se trouvera à partir de 1442, c'est ce que vous avez sur la carte, la carte avec les dates 1442, c'est la date où Alphonse d'Aragon prend possession de son royaume de Naples, à la suite de querelles dynastiques que je ne vais pas rappeler ici, mais en tout cas, il gagne son royaume par conquête, alors que les autres, il les a eus plutôt par mariage, plutôt par système dynastique, plutôt par féodalité, etc. Là, vraiment, il faut qu'il aille gagner son royaume, donc ça va être quelque chose de très important. Je ne vous montre pas une carte de l'Empire romain, mais parce que vous l'avez tous dans la tête, et je ne vous montre pas une carte des langues romanes, parce que vous l'avez aussi tous dans la tête. On voit bien que ces trois cartes pourraient se superposer, et moi, ce qui m'intéresse sur la période, c'est comment une dynastie qui décide de mettre son siège, de transférer son siège de gouvernement de Valence et Barcelone, que vous avez à l'ouest, à Naples, va faire pour administrer ces possessions, qui sont des possessions, comme vous pouvez voir, à la fois dans des aires géographiques éloignées, non continue, donc ça veut dire qu'il faut traverser des possessions étrangères, et sur des aires linguistiques qui, si elles sont relativement proches, sont quand même au XVe siècle déjà bien différenciées. On ne parle pas la même langue au royaume d'Aragon, ni même dans ce royaume d'Aragon que vous voyez, qui comprend le Roussillon, la Catalogne et l'ancien royaume de Valence, on a déjà trois variantes linguistiques, on va dire, d'une langue vulgaire qui serait hispanique. En Provence, on a une langue qui est plutôt déjà pas mal constituée, pas mal stabilisée, et qui a déjà une grande culture de l'écrit. Je dirige actuellement justement une thèse sur les Italiens à Marseille au XVe siècle, alors italiens avec tas de guillemets, et on travaille sur la culture linguistique de ces populations qui font du commerce, qui font de l'administration, et donc qui se débrouillent linguistiquement parlant pour avoir une langue d'intercompréhension. Dans le royaume de Sicile et dans le royaume de Naples, on a des langues qui sont relativement bien constituées aussi, qui sont différentes, mais qui sont assez stabilisées. Et enfin, dans le duché d'Athènes, qui se veut, bien entendu, l'héritier du grec classique, on a ce qu'on appellerait aujourd'hui du grec déjà moderne, et qui est un vulgaire grec assez bien stabilisé aussi, qui servira d'ailleurs, qui sera réinterprété à partir du début du XIXe siècle comme langue nationale. Mais je ne reviens pas là-dessus. Ce qui est intéressant donc, c'est que, et ça Jérémy en parlera sans doute tout à l'heure, il y a pour l'administration de ces royaumes, de ce royaume et de ces aires multilingues, une inflation de papier. C'est-à-dire que les rois de Naples écrivent. Ils écrivent à peu près partout. Ils écrivent pour gérer leur domaine en Aragon, pour gérer leur domaine à Marseille, pour gérer leur possession de Sardaigne. Ne parlons pas évidemment des Baléares qui restent leur endroit, on va dire, privilégié. Et pour créer les conditions de cette administration, bah, ils s'entourent à Naples de lettrés, et notamment, alors ils font d'abord venir du personnel administratif avec eux de Catalogne, mais qui va avoir des offices très techniques, voilà, l'administration, l'approvisionnement du palais, etc. Et ensuite, il va faire venir des intellectuels de toute la péninsule italienne qui vont effectivement servir dans un premier temps de secrétaires. Je mets aussi des secrétaires à guillemets, des guillemets à secrétaires parce que j'ai pas envie que Jérémy me reprenne. Mais en attendant, au XVe siècle, on a quand même cette fonction de secrétarius, c'est-à-dire celui qui écrit au nom des rois de Naples. La plus grande figure sur ces 50 années, c'est-à-dire de 1442 à 1503, est la figure de Giovanni Ponta, donc qui s'appelle Premier ministre, hein, vraiment, c'est-à-dire primus ministerius, hein, donc en latin, et qui fait office de secrétaire, c'est-à-dire que c'est par son bureau que transite, par son office que transite toutes les correspondances envers les rois de Naples, et lui-même a aussi une correspondance en tant que Premier ministre. Donc on a deux échelles de correspondance qui sont très très vaste. Et ce que je voulais juste montrer dans le petit temps qui était imparti, c'est que dans cette quadripartition de langues, comme vous pouvez voir, c'est-à-dire le vulgaire de la péninsule italique, puis le napolitain stricto sensu, qui est la langue qui est parlée et aussi un petit peu écrite au XVe siècle déjà, le catalan, qui est une langue qui est déjà écrite, le latin, qui sert de langue impériale, on va dire, si on devait utiliser un anachronisme, de langue impériale dans toutes ses possessions, on a une quadripartition des langues qui se fait selon une distribution qui est extrêmement codifiée. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas la même langue pour n'importe quelle situation, mais surtout, ce qui est extrêmement intéressant, et c'est ce que je voulais vous montrer, puisque l'idée, c'est de... le travail que je suis en train de faire, c'est d'éditer, c'est-à-dire d'abord de collationner, de récupérer tout le matériau linguistique de cette correspondance, et ensuite de l'éditer, c'est-à-dire de le transcrire dans une langue à l'identique, et de la traduire. Et ce que je voulais vous montrer, donc Nicolas, si tu peux passer les diapositives suivantes, c'est comment la quadripartition se fait et comment on se trouve devant une lettre qui est plurilingue. Là, je vous ai mis une lettre que j'ai trouvée à New York, à la Pierpont Library, que j'aime beaucoup, parce que c'est une lettre qui a échappé au recueil des lettres officielles, qui est une lettre écrite à Francesco Sforza, qui se trouve à l'époque à Pise. Donc Francesco Sforza, le duc de Milan, qui est à Pise. Et donc Giovanni Pontano lui écrit, donc il lui écrit de sa main, c'est une lettre autographe, il lui écrit au nom de sa sœur, mais en même temps il utilise moi aussi le Pontano dedans. Donc c'est intéressant parce que c'est une lettre qui se met sur pied d'égalité entre un premier ministre et un prince. Et deuxièmement, c'est intéressant parce qu'elle a échappé au recueil des lettres complètement officielles, puisqu'elle n'a pas été rassemblée aux archives, et elle a pu circuler, puis être vendue. Et moi, je l'ai trouvée à la bibliothèque à New York. Voilà comment se présente une lettre plurilingue, et le jeu linguistique est très intéressant dans cette lettre administrative. Donc là, c'est une lettre dans laquelle il lui dit « Prends bien soin de toi, tu es le duc de Milan, tu ne dois pas tomber malade, à Pise, il peut y avoir la fièvre, etc. » Et alors évidemment, nous, avec notre regard de linguiste, où on a envie de voir des choses, on a peut-être parfois aussi... Une interprétation qu'on fige, alors que sur certains, on va dire, morphèmes, on n'est pas forcément capable de savoir de quoi il s'agit. Là, je voulais juste vous montrer à quoi ressemble une lettre qui est plurilingue. Donc, un peu de latin, c'est la première patate, là. Hein, à toi, mon frère très, très aimé. Donc là, on est très, très clairement en latin. Hein, il n'y a pas de problème. Amantissimi, c'est une forme... au datif en latin. Derrière, la deuxième et la troisième patate, ave movist, avemo avuto, qui est plutôt un italien standard, mais j'ai tendance à dire que ce avec le H déjà présent, qui n'est pas un H, et qui n'est pas un H, on va dire, orthographique, mais qui est un H étymologique. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, en italien standard, ce H a disparu, puisqu'il ne se prononce pas. On n'a pas avemo, c'est une forme du verbe avoir qui n'a pas de H. Donc là, on peut se poser la question de savoir si c'est une hypercorrection étymologisante. Regardez, ma langue italienne vient bien du latin, regardez comme c'est joli, je mets un H. Ou si c'est, surtout en bas d'ailleurs, de poi avemo avuto, avec, bon, moi je ne le prononce pas à la florentine, mais on pourrait imaginer qu'on est déjà sur la graphie qui reproduirait l'aspiration à la Toscane. Et ça a un sens, puisque il est à Pise, et n'oublions pas que c'est quelqu'un qui va lui lire cette lettre. Si tu veux bien passer la diapo d'après, et là, cette dernière partie de lettre est très marrante aussi, parce que je vous ai, donc, première patate expedita, hein, celle-ci a été expedita con grande celerita. Là, très très clairement, on est sur un mot qui est écrit en latin, comme il y frontrait à fratrie amantissimi, puisque sur ce expedita, déjà au Moyen-Âge, même en reconstruction du latin classique, et d'ailleurs déjà sur le latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, si on dit que le latin du 1er siècle avant Jésus-Christ serait la forme classique, on a déjà ce qu'on appelle l'assimilation régressive des préfixes. Donc on n'aurait pas du tout un expedita, on aurait déjà une assimilation. Et enfin, regardez cette brave soror amantissima. Là aussi, j'aurais pu mettre une patate parce qu'on est vraiment sur du latin. Donc, la dédicace d'un côté et la formule de fin de l'autre sont en latin. En revanche, sa sœur, c'est Hippolyte Sforza, hein, donc la sœur de Francesco Sforza, qui est duchesse de Calabre, c'est-à-dire qui est la numéro 2 du royaume de Naples. Et regardez ce magnifique Hippolyta qu'il a écrit en grec avec un Y, qui devrait se prononcer U si on le faisait en prononciation restituée, et qui lui permet en fait de lui donner une dignité de princesse intellectuelle, etc. Il aurait très bien pu écrire Hippolyta, I-D-P-O-L-I-T-A, comme c'est écrit dans ses lettres en vulgaire. Mais là, il utilise la forme en grec. Et d'ailleurs, Doukis a Calabrie, comme vous pouvez voir, là on a une forme qui est très très intéressante parce qu'on a le code switching, comme on dit en linguistique contemporaine. Doukis, qui est une forme italianisée, puisque dux, duc, en latin, n'a pas de féminin, d'une part, et d'autre part, là, on est très clairement sur une forme qui serait duquesse en italien, et qui est translittérée en latin pour devenir doukis. Donc là, doukis, on est sur du latin médiéval. On est vraiment, vous voyez, on est déjà sur une combinaison de cinq langues, et calabrie, avec la diphtongue ae qui n'y est plus et qui est déjà réduite dans un e un peu long et un peu donc là sur ces trois mots là que je vous ai indiqué, on a vraiment l'utilisation de ces trois langues, c'est-à-dire le grec, le latin et un italien standard qui serait déjà translittéré du latin. Alors, c'est très très bref, évidemment, mais ce que je voulais vous montrer, c'est comment, avec le matériau à disposition, c'est-à-dire la quadripartition linguistique minimum, minimale, parce qu'il est évident que selon les endroits où vous êtes, vous avez aussi encore des variantes linguistiques. En catalan, on a des lettres où il utilise, par exemple, les formes catalanes pour le condottiero, par exemple, ça ne lui plaît pas du tout. Il utilise le conductero, qui est la forme qu'on utilise à Barcelone. Et voilà, donc c'est quelques exemples pour vous montrer vraiment dans la matérialité des choses, comment on gouverne à distance et comment ça passe aussi par l'utilisation des langues, des récepteurs. Voilà, j'ai essayé de tenir mes 10 minutes et je passe la parole à mes amis en présence. Merci.
Merci, merci Florence. Donc, je crois que maintenant, on passe la parole à Jérémy. Oui, c'est Jérémy Ferrer-Bartomeu qui va prendre la parole pour poursuivre cette séance.
Jérémy, tu nous entends?
Oui.
De couper. Oui. Désolé.
Mais c'est vrai que je ne vous entends pas là.
Tu nous entends là?
Là, je vous entends très bien.
Okay, okay. Ça y est.
Florence, est-ce que tu pourrais juste mettre ton micro en couper ton micro
oui.
Le temps que
oui.
Jérémy fasse sa présentation. Et ouais. Vous voyez qu'on est dans un panel sur le gouvernement à distance qui met en avant aussi la distance et que les challenges sont matériel, intellectuel et technologique. C'était pas ça.
Peut-être Nicolas, si tu veux, je peux peut-être commencer.
Peut-être commence en attendant que tout reste en ordre.
D'accord.
Et dès qu'on a le retour image, je te.
Ok.
Oui, vas-y, Rémi.
Très bien. Bon, d'abord, je remercie évidemment les rendez-vous de l'histoire, et puis je remercie mes collègues qui sont en présence, alors que nous sommes nous-mêmes à distance. Donc voilà, c'est une forme de méta-table ronde sur notre propos. Voilà, moi je suis confiné à Paris et placé en quarantaine, donc voilà, je vous remercie en tout cas, et je remercie Nicolas et Raphaël de prendre tout cela en charge. Moi, j'aimerais vous parler très très simplement de deux grandes formes de distance. Une distance qui est une contrainte géographique, une contrainte géographique dans les déplacements et dans le temps, mais pas dans n'importe quel type de déplacement. Les déplacements du papier politique, le déplacement des papiers d'État, des paquets de correspondances qui doivent circuler pour tenter de conjurer les crises politiques qui minent la fin du XVIe siècle. Donc je vais pour cela essayer de m'appuyer sur deux tableaux. J'en ai peut-être trop envoyé à Nicolas, et donc je ne sais pas si vous pouvez déjà les voir. J'aimerais m'appuyer sur deux tableaux qui disent des choses similaires qui me permettront de m'appuyer un petit peu sur cela. Le premier est, mais si vous ne les voyez pas, c'est vrai que c'est un peu compliqué.
On va le prouver.
Voilà, on, tr- Très bien, parfait. On va descendre un peu par rapport à Charles Quint, qui est formidable à commenter, mais nous n'aurons pas le temps sinon. Voilà, on va passer à l'autre tableau. Voilà, on va passer à celui-ci, qui n'est pas un tableau, c'est un détail d'une fresque. On se trouve ici dans la salle des batailles du palais monastère de Philippe II, l'Escorial, à distance de Madrid, à distance du cœur politique de la vieille Castille. Philippe II se trouve dans ce palais. Pour ceux qui le connaissent, il est enfermé, claquemuré dans une toute petite pièce qui fait office de chambre et de bureau. Et à côté de sa toute petite chambre, il y a une immense salle. Cette salle est la salle de ses secrétaires, de son secrétariat. Et en permanence, vous avez des navettes, des courriers qui arrivent depuis Madrid pour porter les nouvelles des assemblées, des cortes, jusque au roi. Le roi voit tout, annote tout, tient la main aux plus petits détails qu'il se passe soit dans un monastère en Castille ou alors dans la très lointaine Nouvelle-Espagne. Donc il y a une forme de retrait du roi, par rapport à son propre empire, et en même temps, dans le même mouvement, une saturation de l'intégralité des papiers d'État qui portent la marque du roi, comme l'a bien montré Jean-Frédéric Chaume. Des toutes petites annotations. Et à quelques mètres de là, c'est-à-dire à toute petite distance, se trouve une immense salle, la salle des batailles, très grande salle qui va être composée dans les années 1580-1590 par un programme iconographique qui est extrêmement, extrêmement bien rodé. Et il y a trois grands ensembles iconographiques. Sur un côté de la salle, il y a la fresque de la Reconquista, de la victoire contre les arabo-musulmans et la chute du califat. De l'autre côté, c'est le cycle des batailles contre la France, des batailles entre les années 1520 et 1550. Il y a donc ce cycle de batailles, les deux cycles se font face, et au fond de la salle, il y a la dernière conquête, si l'on peut dire, de Philippe II, à toute petite distance, puisque c'est une périphérie, la conquête de la Isla Tercera, la conquête du Portugal. Donc, on comprend bien comment fonctionne cette salle. Cette salle est le rappel à qui veut bien la voir, et les conseillers, ambassadeurs sont assez nombreux à passer dans cette salle. C'est le rappel du destin messianique de la monarchie catholique, de la monarchie universelle, de la monarchie qui était la monarchie impériale avec Charles Quint. Ici, donc, il y a ce cycle qui est extrêmement facile à comprendre. Et moi, je me suis un petit peu intéressé à cette salle. Peut-être que Nicolas, on reviendra sur ce tableau, mais pour montrer au public peut-être l'ampleur de la salle, je veux bien que tu passes à l'autre image, si tu m'entends. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, vous avez le mur nord, donc les batailles contre les arabo-musulmans, sur le mur qui se trouve près des fenêtres de la salle, vous avez le cycle des batailles contre la France, qui est donc extrêmement bien découpé puisque les fenêtres le permettent, et vous avez donc au fond la conquête du Portugal. Moi, ce qui m'intéresse, et vous le voyez évidemment, puisque ça vous frappe, c'est le nombre de personnages qui sont représentés. Il y a énormément, énormément, énormément de personnages représentés, et pour ainsi dire, toutes les activités qui sont liées en fait à la guerre sont représentées. Vous avez évidemment des combattants, vous avez différentes armes qui sont représentées, mais vous avez également les gens qui suivent l'armée, vous avez des cantinières, vous avez des prostituées, vous avez des soldats qui jouent aux cartes. Bref, on peut absolument lire un livre ouvert ce qu'est une armée en campagne, une armée loin de chez elle. Cependant, il y a une activité qui n'est pas représentée, du moins je le croyais. Nicolas, je veux bien que tu reviennes à l'image précédente, s'il te plaît. Il y a une activité qui n'est pas représentée. C'est l'activité pourtant si chère à Philippe II, qui est enfermé dans son palais monastère et qui doit diriger un empire immense. C'est l'activité de courrier, c'est l'activité secrétariale, pourrais-je dire, si j'inventais ce néologisme. C'est une...
Oui, il s'est auto-coupé la micro. Thank you.
que ce n'est pas un hasard. Le contrat qui documente la commande passée par Philippe II est extrêmement précis et détaillé, et on sait évidemment que ce courrier a été placé à une position qui est une position toute particulière. Je ne vois plus l'image, mais j'espère que vous la voyez. Si on regarde la position de ce courrier, il se trouve dans une bataille qui est une bataille importante. C'est la bataille de Gravelines. C'est pour ainsi dire l'avant-dernière bataille avant la fin du cycle des guerres contre la France et la victoire de l'Espagne, la bataille de Hamon. Il se trouve que ce secrétaire, ou du moins ce courrier, qui n'est pas habillé comme les autres, qui ne va pas dans le même sens que les autres, marche en direction de la victoire. Le message est très clair. Philippe II, qui n'apparaît absolument pas, ni Charles Quint bien sûr, absolument pas dans ses différentes fresques, alors qu'il y a tant de personnages, et quasiment pas de marqueur de la royauté, quasiment pas, c'est le marqueur. Le roi est présent dans son retrait, il est à distance, à bonne distance, puisqu'il se trouve dans son palais monastère, évidemment. Or, il y a un problème sur cette fresque. Il y a eu deux batailles de Gravelines. La première bataille, c'est évidemment celle qui va conduire à la victoire définitive, ou en tout cas, du moins, il l'espère, de l'Espagne jusqu'au traité du Cateau-Cambrésis de 1559. Et une deuxième bataille de Gravelines, qui est une bataille, un échec, est une déroute totale. Pourtant, la fresque est réalisée 2 ans après cette défaite, 2 ans après cette déroute. Ce que choisit de représenter Philippe II est évidemment la victoire qui a été permise et que le courrier va porter jusqu'à la dernière fresque, à la dernière bataille, à la dernière victoire. Le papier politique ici représenté, on voit que justement ce courrier, donc cette activité qui permet justement de conjurer la distance par l'écrit politique, est représenté ici, il est seul, il est d'une manière exemplaire de ce travail de l'État sur le cours des événements. Il y a un deuxième tableau que j'aimerais commenter dans le déroulé de notre propos. C'est le tableau faussement attribué à Juan Pedroja de la Cruz en 1604, qui porte différents titres, mais en tout cas, on peut les réunir sous le titre du traité de l'ombre en 1604. Alors peut-être que je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas. Si vous voyez le tableau. Ah d'accord, très bien. Alors, moi comme je ne le vois pas, il faut que je le reprenne. Ce tableau est très intéressant pour notre sujet. Pour ainsi dire, vous avez ici la représentation du gouvernement à distance. Pour une raison d'abord qu'il faut expliquer. Pour une raison simple, c'est que les personnages que vous voyez ici, qui représentent d'un côté la délégation espagnole et flamande et de l'autre la délégation anglaise, ne se sont pas retrouvés dans la même salle. C'est une fiction, donc nous sommes à bonne distance de la réalité aussi. Ici, il y a une forme de représentation qui permet de montrer un certain nombre de choses. Il y a comme un retour au roi, un retour aux deux rois. Philippe III, le nouveau roi d'Espagne, et Jacques Ier, Jacques VI d'Écosse. Il y a un retour au roi dans la mesure où les personnages ne sont pas retrouvés donc, dans la même salle. Ils sont tous mandatés. Il y a des tensions très importantes entre, d'une part, la délégation flamande et les envoyés espagnols et castillans, qui n'ont pas totalement le même agenda politique, et de l'autre, vous avez donc la délégation anglaise, qui est très intéressante aussi, puisque nous nous tenons à bonne distance de la réalité, avec des très grands ministres hein, qui sont évidemment présents. Si on passe à l'image suivante, où j'ai fait des petits zooms hein, sur ce tableau, mais je crois qu'il ne sera pas forcément nécessaire de vous les montrer, puisque vous voyez bien, ce tableau est saturé de papier. Il est saturé de papiers qui sont des papiers comme des mandats, des papiers qui sont les mandats des ambassadeurs et des envoyés des différents groupes politiques qui sont en train de négocier une paix tant attendue après le traité de Vervins avec la France en 1598. Bien, là, nous avons cette paix qui vient mettre clore un cycle infernal de guerre pour quelque temps. Là, vous avez donc ces mandats. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez devant Lord Cecil un écritoire et une plume, c'est-à-dire tous les instruments de l'écrit politique qui se trouvent devant lui. Bon, c'est un très 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 grand seigneur. pas forcément sûr qu'il ait lui-même couché le traité de Londres sur papier, mais c'est ici peut-être plus une symbolique. Hein. C'est lui, en effet, qui va venir recueillir les différents points de ce traité de paix. Donc, voilà, ici, il y a la représentation de la distance. En plus, la distance, comme je vous l'ai dit, elle est géographique, mais c'est aussi une distance dans le temps, puisque nous savons que ce traité a été particulièrement bien négocié par la délégation espagnole, avec des retards contraints. On s'est excusé de ne pas réussir à arriver, à venir jusqu'à Londres. L'ambassadeur lui-même, Tassif, est de manière contrainte, forcé de d'arriver avec lenteur pour pouvoir découvrir le jeu des positions adverses, en tout cas des anciens adversaires avec qui on va pacter et à qui on va faire une paix. Donc, ici, c'est très intéressant. On réunit magiquement, dans ce tableau, des gens qui ne sont pas là, et on montre combien le retour au roi, par l'expression même du papier politique, du papier d'État, est important. Voilà, je m'arrête là, parce que je veux vraiment pas être trop long. J'espère que ça pourra peut-être susciter une discussion avec mes collègues et puis avec le public. Je vous remercie.
Merci à toi, Jérémy, pour cette intervention. Je vais donner la parole tout de suite maintenant à notre premier intervenant en présentiel, Jean, qui est à mon côté. À toi la parole, Jean Seignier.
Merci beaucoup, Raphaël. Et donc, moi, je vais opérer un double déplacement. D'une part, je vais non plus étudier des gouvernements ou des États, mais le gouvernement de princes, en l'occurrence des princes de l'Église, les cardinaux de la famille d'Este. Et je vais les étudier plus précisément en rapport avec leurs bénéfices ecclésiastiques situés dans le Royaume de France. Alors, on va les voir apparaître. Donc, il y aura les deux images de ces deux cardinaux qui, au cours de leur carrière, ont accumulé de très nombreux bénéfices ecclésiastiques dans le Royaume de France suite au Concordat de Bologne et qui permet donc d'exercer la commande dans ces bénéfices ecclésiastiques. Or, ils reviennent à partir des années 1545-1550 dans l'Italie et plus précisément en fait à Rome sur le théâtre romain où ils vont exercer une représentation pour le Royaume de France, une représentation pour leurs propres intérêts, notamment les intérêts Ferrare, mais où ils vont aussi essayer de faire fructifier ce capital social et symbolique acquis. Et aussi, ils vont essayer d'administrer leurs bénéfices ecclésiastiques français. Et pour ce faire, ils vont mettre en place deux modalités concomitantes. La première, eh bien, s'enracine dans la mise en place de circuits d'information articulés en système. Et la seconde, en fait, elle tient au choix des hommes pour assurer justement la liaison entre la France et l'Italie et assurer et administrer leurs bénéfices ecclésiastiques. Donc là, vous pouvez voir les dates des cardinaux d'Est, Hippolyto II et Luigi, qui en fait occupent une grande partie du XVIe siècle. Alors, la distance est évidemment une donnée incontournable de toute activité diplomatique ou de gouvernement et qui nécessite donc une mise en place de gouvernement de l'écrit. Alors, je rappellerai quelques données sur les liaisons postales qui, au XVIe siècle, sont organisées autour d'une division entre courrier ordinaire et courrier extraordinaire. Les premiers, en fait, sont mis en place par les États et fonctionnent selon le principe de la régularité, tandis que les seconds, par opposition aux premiers, répondent à un besoin ad hoc et souvent se fient à la confiance qu'on met dans le courrier. Alors, les prélats de la famille d'Est recourent évidemment à ces deux types de courriers. Ils font donc appel à des courriers ordinaires, généralement, en fait, se fiant aux courriers français ou à la poste pontificale, mais ils peuvent aussi faire appel à des courriers extraordinaires. Ils en ont les moyens, ce qui leur permet justement de faire suivre des dépêches importantes ou urgentes et de disposer aussi de leur propre réseau d'informations. Ils peuvent également, et c'est un point qui est fondamental pour eux, s'appuyer sur la correspondance des ambassadeurs du duc de Ferrare, multipliant ainsi les voies pour justement s'informer sur leurs bénéfices ecclésiastiques. Alors, les courriers passent par Lyon. Lyon qui est considéré comme une plaque tournante du trafic postal entre Paris et Rome, mais aussi entre la cour d'Espagne et Rome. Et il est intéressant de voir que les cardinaux d'Est, et surtout le second, Luigi d'Est, mettent en place des maîtres des postes à Lyon, chose qu'on ne retrouve pas pour des cardinaux avant la moitié du XVIIe siècle, selon Olivier Poncet. Ces maîtres des postes, en fait, ont une fonction simple. Ils sont chargés d'assurer le contenu du courrier, d'écrire une lettre supplémentaire pour valider le contenu du courrier ou les absences, et ensuite de faire des annonces sur les courriers attendus. Donc, en fait, il s'agit simplement de tenir un compte des différents courriers, du bon déroulement des transports qui, comme vous pouvez l'imaginer, sont parfois soumis aux aléas. Alors, je ne m'étendrai pas trop sur cette question du courrier, je rappellerai simplement un chiffre. En moyenne, un courrier entre Paris et Rome met, au XVIe siècle, entre 15 et 20 jours par beau temps, ce qui veut dire qu'il peut mettre bien plus, et donc, dans les meilleurs des cas, une navette, donc un aller-retour, met environ un mois. Je viendrai maintenant plus précisément au système bénéficiel, et d'abord je vais vous montrer les cartes des bénéfices ecclésiastiques. Donc ça, ce sont les bénéfices ecclésiastiques français accumulés par Hippolyte d'Este dans le royaume de France entre 1535 et 1572, l'année de sa mort, et donc principalement possessionné dans le nord autour de Paris et dans le sud-ouest, là aussi, là où sont généralement possessionnés les Italiens, avec de très très belles abbayes, et Notre-Dame de Breteuil, Notre-Dame de Chaly et d'autres, et aussi des archevêchés très importants, notamment Auch, qui est le premier archevêché en France, notamment par ses revenus. On peut passer aux bénéfices ecclésiastiques de Luigi d'Este, qui sont un peu plus condensés, qui sont aussi hérités de son oncle. On voit un léger déplacement, mais qui montre aussi une permanence de cet héritage au sein de la maison d'Este. Et la diapo suivante va justement permettre de situer l'origine de ces cardinaux d'Est. Donc ils viennent de Ferrare. Ils ont des terres entre Ferrare, Modène et un tout petit peu plus au nord vers Venise. C'est ce qui correspond au duché de Ferrare. On peut revenir sur la diapo de Luigi d'Est. Et alors, pour justement administrer ces bénéfices ecclésiastiques, alors qu'eux-mêmes se trouvent principalement donc à Rome, ils ont besoin d'hommes, ils ont besoin de serviteurs qui forment des relais et permettent de conjurer la distance. Et c'est d'ailleurs aussi pour eux un enjeu indispensable pour acquérir une autonomie aussi bien par rapport à leurs frères ou oncles, le duc de Ferrare, que par rapport au pape ou par rapport au roi de France. Alors, on voit aussi toujours cet éclatement territorial qu'on avait vu avec le royaume aragonais, qui là aussi nécessite des hommes formés à différents droits, à différentes langues, et capables de faire preuve de pragmatisme face aux imprévus, et de gérer aussi les potentielles ruptures d'informations. Alors, j'en ai identifié 22 au service d'Hippolyte d'Este, et un peu plus de 15, en fait, 17 au service de Luigi d'Este, et ils endossent plusieurs titres dans la documentation. Ils sont autonomés vicaires ou vicaires général. Ils peuvent être également être désignés comme procureurs, trésoriers. On les nomme aussi parfois simplement avocats. Il existe certes donc une labilité des termes, mais ces appellations différentes désignent toujours une mission dans le royaume de France, un aspect plutôt précis de leur mission. Et des cardinaux peut occuper plusieurs missions. Ainsi, peut être vicaire pour le bail d'un bénéfice, procureur ou solliciteur dans une instance de procédure judiciaire, ou encore officier ou agent du cardinal devant les autorités locales. Alors, on peut les répartir en deux groupes. Les vicaires généraux, ceux qui en fait sont chargés de superviser l'ensemble des bénéfices des cardinaux d'Este. Il y a donc ces vicaires généraux qui parcourent la France. Ils ont pour mission de représenter les volontés des cardinaux d'Est et de les faire appliquer dans les communautés monastiques, mais aussi par rapport aux autorités locales. Ils contrôlent également les revenus, et c'est donc bien eux qui sont chargés d'ancrer l'administration des cardinaux d'Est. À côté de ce premier groupe, il y a un deuxième groupe qui serait un groupe plus variés, où on retrouve justement les différentes fonctions de procureur, avocat, où on retrouve également de nombreux stipendiés des cardinaux. C'est ces derniers, par exemple, pensionnant plutôt des avocats français. Par exemple, pour l'année 1569, Hippolyte Audeste pensionne 7 personnes pour la somme de 62 écus. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tout au long du XVIe siècle, ce réseau qui avait commencé par être à moitié français avec Hippolyte Audeste s'italianise de plus en plus pour arriver à une italianisation quasi complète sous Luigi d'Este, même s'il demeure des éléments importants de nationalité française, par exemple le trésorier Philippe de Castille, qui est receveur général pour l'Assemblée du clergé. En fait, le souci, et je terminerai là-dessus, le souci principal des cardinaux d'Este est d'assurer la meilleure administration possible, meilleure administration évidemment à des fins simples, celle de s'assurer les meilleures rentrées fiscales et surtout des rentrées continues, mais également, et c'est un souci qui apparaît de plus en plus à partir des années 1570-1580, d'appliquer l'esprit tridentin, en tout cas d'essayer de mettre en place progressivement un ensemble de réformes tridentines, ce qui permettrait aussi de revenir sur justement le lien entre commande et application des normes tridentines qui a parfois été opposé, alors qu'en réalité les deux peuvent aller de pair, mais c'est plus une remarque incidente. Et donc ce projet, plutôt cette présence des hommes, vise à enraciner l'action des cardinaux d'Est, à les suppléer, à suppléer à leur action, et assurer justement qu'ils gardent bien un œil sur ces bénéfices. Et enfin, c'est une dimension évidemment politique, puisque ces hommes vont aussi discuter avec, je l'ai dit, les autorités locales, mais aussi avec les seigneurs et avec les autorités royales pendant les temps des guerres de religion, et donc vont aussi mener une politique d'ensemble pour ces bénéfices ecclésiastiques, mais tout ça centralisé depuis Rome par Luigi d'Este.
Merci Jean aussi pour ta concision. Et maintenant, je vais donner la parole au bénémérite de cette séance, Nicolas Simon, qui d'abord va trouver son propre diaporama.
Tu nous entends pas, Jérémy? Tu as coupé ton micro.
Non, non, mais en fait, on entend. Nicolas, on n'entend que toi lorsque toi tu parles devant l'ordinateur, je pense. Parce que même tu vois là, genre on l'entendait très mal, Raphaël très mal, aussi, ouais. On l'entendait très mal au début. On entend que si tu parles devant, que celui qui parle devant l'ordi. Bon, je coupe mon micro. Hein.
On s'arrangera pour la session questions-réponses. Voilà. Et
un petit. On l'avait, mais on l'a perdu.
On l'a perdu ?
Oui.
C'est excessivement énervant quand la technique vous lâche. Voilà, désolé. Pour ne pas perdre trop de temps et ne pas, empiéter sur l'expérience du vécu. Voilà, moi je vais intervenir troisièmement pour revenir sur un empire. Enfin, peut-être que certains ont assisté au panel de ce matin sur gouverner l'expérience impériale qui était organisé par le réseau des écoles françaises à l'étranger. Et il a notamment été question de l'empire espagnol. Alors ici, je vous ai mis une carte de l'ensemble des territoires qui étaient gérés par la monarchie espagnole. Vous avez un certain nombre de territoires donc en Amérique, mais également des côtes africaines durant la période où le royaume du Portugal est intégré à la monarchie de 1580 à 1640, mais également des territoires asiatiques. Alors, comme je ne suis pas français mais belge, je vais me focaliser davantage sur les territoires européens. Et dans cette perspective-là, d'abord, le rendu ici dans l'écran le montre bien, je vais me focaliser sur ce que l'on appelle à l'époque les anciens Pays-Bas. Les Pays-Bas, donc à ne pas confondre évidemment avec le royaume actuel des Pays-Bas. Par anciens Pays-Bas, eh bien en gros, cela implique le Benelux et une partie des territoires de la France à l'heure actuelle. Alors, la question du gouvernement à distance, comme vous pouvez l'imaginer avec la carte évidemment que je vous ai montrée de l'ensemble de l'Empire, l'enjeu est évidemment extrêmement complexe, tant pour Philippe II, pour ses successeurs, dans la mesure où s'il y a déjà un éclatement des territoires à l'échelle européenne, il y a également un éclatement des territoires à l'échelle mondiale. Donc en termes de logistique, en termes de temps que cela prend pour être informé, le temps évidemment que l'information arrive à Madrid, elle est déjà obsolète par rapport à l'évolution de la situation dans le territoire d'où le courrier provient. Ici, vous avez non pas l'ensemble des territoires, je dirais, gérés par Charles Quint, mais plutôt par véritablement ceux qui dépendent directement du territoire, de la maison des Habsbourg. Et vous voyez que là, cela renvoie également à un ensemble de territoires de la monarchie aragonaise dont a parlé Florence Bistagne au début de cette présentation. Alors, de ce panel, pardon. Alors, comme indiqué, je vais davantage me focaliser sur ces territoires des Pays-Bas, des anciens Pays-Bas, qui, en réalité, sont donc un ensemble de principautés qui, durant le XVe siècle, durant le XVIe siècle, vont intégrer la monarchie espagnole, mais qui déjà, durant le XVe siècle, intègrent un complexe institutionnel qui est celui des ducs de Bourgogne. Et du coup, déjà durant cette période du XVe siècle, vont se mettre en place un certain nombre d'institutions et de pratiques en lien avec une obligation de devoir gérer des territoires qui n'ont en réalité en commun que la figure du prince. Parce que ce n'est pas un royaume, ce n'est pas une entité centralisée et homogène. Un habitant du comté de Flandre n'est absolument pas la même chose qu'un habitant du duché de Brabant, que de la Frise ou de Groningen. Donc là, on est déjà face à l'obligation de se situer dans les contraintes que fixe l'union personnelle, le terme qui vient désigner ce schéma institutionnel. Alors, l'évolution que l'on peut voir en termes de gouvernement à distance, c'est naturellement que l'éclatement des territoires de la monarchie espagnole implique quoi ? Eh bien que le prince ne peut absolument plus, le souverain ne peut plus être présent dans l'ensemble de ces territoires constamment. Or, c'est un aspect fondamental pour ces différentes populations qui considèrent que le prince, généralement, eh bien, pour que la principauté soit gérer et gouverner convenablement, si je puis dire, eh bien, il faut que le prince soit présent. Et pour ceux qui savent un petit peu l'histoire du XVIe siècle de ces provinces, ça ne va pas être très glorieux, vu qu'on va, en 1580, avoir sept provinces qui vont déclarer la déchéance de Philippe II, qui ne vont plus le reconnaître comme son souverain, et d'une certaine manière, le royaume actuel des Pays-Bas considère que cet acte de déchéance est fondateur, en fait, de leur royaume. Et donc, c'est la ligne en rouge que vous voyez, qui est maintenant cette frontière d'État entre la Belgique et le royaume des Pays-Bas. La grosse différence que l'on peut voir, eh bien, c'est que au début du XVIe siècle, il y a une différence entre le règne de Charles Quint, par exemple, et ce que ce sera durant son fils. On va passer de ce que les historiens et historiennes appellent généralement une logique de monarchie composite à ce que l'on appelle une monarchie polycentrique. Et qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, Charles Quint, c'est encore quelqu'un qui voyage beaucoup. Il est, pour ainsi dire, tout le temps en vadrouille. Et la logique de l'intégration des différents territoires à la tête desquels il se trouve implique qu'il y a une implication réelle des différents membres des territoires qu'il gouverne. L'évolution que l'on va observer tout au long du XVIe siècle, avec un recentrement sur la Castille, Madrid comme capitale à partir du règne de Philippe II, vraiment comme centre de la monarchie au début des années 1560, eh bien, va faire que les différents territoires de cette monarchie vont être composés ou vont être gérés par des représentants du souverain, un vice-roi, mais en l'occurrence dans les Pays-Bas, on parle de gouverneur, gouvernante générale. Ce qui implique donc que l'on va observer de plus en plus que ces représentants du roi ont une cour autour d'eux qui va permettre d'intégrer systématiquement des élites locales, généralement évidemment de la noblesse, et avec un pouvoir qui ne devient donc plus en quelque sorte, où les décisions ne sont plus évidemment prises ou ne sont pratiquement, pour ainsi dire, impossiblement prises depuis Madrid, mais bien au cœur de ces différents
vice-royauté de par ses gouverneurs généraux et les institutions qui les composent et qui les encadrent. Donc on est là vraiment dans un contexte tout à fait particulier qui vient de dire que l'on passe donc à une monarchie qui est plutôt du coup polycentrique, qui met en avant ces différents espaces pluriels à l'échelle de la monarchie. Mais cela n'implique pas, évidemment, que le souverain à Madrid peut se croiser les bras en se disant que le travail est effectué par ses vice-rois ou ses gouverneurs généraux dans les différentes principautés, que ce soit Philippe II ou évidemment aussi Philippe IV. On est face à des personnes qui voient un afflux massif de documents sur leur bureau, naturellement, et qui doivent prendre ces décisions de manière quotidienne et coutumière. Dans le cas des Pays-Bas, ce que l'on peut relever, c'est que donc là, il y a aussi une intégration de cette élite par l'intermédiaire, la noblesse principalement au sein de l'entourage du gouverneur général, avec une correspondance vis-à-vis de Madrid qui est constante et quotidienne aussi, mais comme les personnes qui se sont précédées avant moi l'ont bien dit, ça prend du temps évidemment de communiquer. Et d'un autre côté, on voit aussi un ensemble d'institutions se mettre en place, et notamment les États généraux qui apparaissent à la fin du XVe siècle et qui sont donc là, non pas une institution qui va être évidemment créée par le prince en tant que tel, mais plutôt apparaître sui generis, c'est composé de délégués des différentes États provinciaux des différentes provinces, et qui vont généralement être un lieu d'échange et de dialogue en quelque sorte avec le souverain ou ses représentants. Et généralement on est aussi dans cette situation où lorsque l'on les rassemble, ces États généraux, c'est généralement parce que le prince, le souverain a besoin d'argent, et en contrepartie, et bien évidemment, généralement, les délégués vont dire « Ok, mais alors on veut ceci, cela, et encore une troisième chose, en termes de droit, en termes d'agenda législatif. » Et donc ce « nous », ce dialogue et cette relation, en fait, entre gouvernants et gouvernés, à l'échelle, évidemment, des Pays-Bas, mais je dirais que la situation ici des Pays-Bas, c'est un cas parmi la pluralité, évidemment, des espaces avec lesquels doit composer la monarchie espagnole, non seulement au niveau européen, mais également à l'échelle du monde entier. Voilà en gros ce que j'avais à vous dire, et je pense que maintenant, on peut gentiment ouvrir la table ronde.
D'abord, merci à notre collègue Nicolas Simon, non seulement pour avoir géré l'ensemble de la séance, mais pour sa concision et sa synthèse très claire. Avant de lancer les questions et les débats et l'échange, je me permets seulement de terminer en soulignant deux aspects qui, à mon avis, sont frappants dans la présentation que nous avons écoutée. Alors, je me suis permis d'énoncer les sujets de cette table ronde, de ces panels, en disant qu'il s'agissait de la déclinaison géographique, on peut dire, de la notion de gouverner. Alors, c'est évident, c'est peut-être que mes collègues m'ont laissé la place pour le dire à la fin, que l'époque moderne s'ouvre véritablement avec une réflexion sur cette notion-là, parce que le chapitre 3 du Prince de Machiavel, 1513, est entièrement consacré au problème de gouverner à distance. Comment gouverner des territoires conquis loin de son propre pays d'origine. La réflexion de Machiavel s'appuie bien évidemment sur la justification de l'impérialisme qui a été donnée par l'historiographie classique, et ça c'est le premier point que j'aime souligner ici. Le deuxième point, qui à mon avis est un peu le fil rouge de ce qu'on a eu le plaisir d'écouter cet après-midi, c'est l'importance croissante de l'écriture. À savoir, pour gouverner à distance, il faut produire des documents. Mais l'effet de produire des documents nous mène à réfléchir aussi sur la notion de récit. Parce que ces documents-là, donc, ils vont contenir un récit des faits. Un récit qui va changer selon les points de vue, selon les perspectives, selon l'évaluation politique qui sera donnée dans l'horizon d'attente du prince, du roi, qui va lire à distance les récits des faits sur lesquels il doit juger, évaluer, prendre des décisions politiques. Pardonnez-moi d'avoir dérobé quelques minutes à la discussion, mais maintenant, j'ouvre le débat avec l'espoir que nos présentations ont sollicité vos questions.
Oui.
Moi, c'était par rapport à la première conférence de Florence Vistagne.
Florence, on va avoir une question pour toi.
Oui, je vous allais peut-être la répéter.
Est-ce que peut-être vous venez la prononcer à côté de l'ordinateur?
Non, ça ne change rien, je vais la répéter.
Non, c'était parce que ça m'a fort intéressé, l'idée de l'être plurilingue, où il y avait différentes langues, et à un moment donné, vous avez parlé de dire que cette utilisation des langues était assez codifiée. Et moi, je me demandais s'il y avait parfois un intérêt. Enfin, je me pose la question simplement un peu naïve du pourquoi il y a cette plusieurs langues, si c'est simplement l'usage, leur manière de penser qui affleure comme ça de manière un peu involontaire, ou s'il y a parfois un usage politique de ces différentes langues.
La question est sur l'usage plurilingue, est-ce que c'est un usage politique?
J'ai entendu.
Ah, tu as entendu, j'ai parfait.
Oui, là j'ai entendu, je n'ai pas entendu la modération de Raphaël, mais là j'ai entendu la question. Oui, c'est très clairement un usage politique. C'est-à-dire, c'est un usage, c'est une pratique intellectuelle parce que les intellectuels dont les Aragonais s'entourent savent le faire, mais c'est un usage éminemment politique. Lorsque je donne un ordre, et ça, alors c'est essentiellement des ordres de levée d'impôts, hein. Voilà, parce qu'on est dans le cadre vraiment de beaucoup de levées d'impôts et d'administration fiscale. Très grosse bureaucratie fiscale. Donc, lorsque je donne un ordre au fin fond de la Calabre, eh bien, j'essaye de la donner en vulgaire méridionale. Parce qu'elle va atteindre celui que j'appelle le prêteur, c'est-à-dire le qu'on appellerait ailleurs le gouverneur de la citadelle, qu'on appellerait ailleurs le podestat dans la plaine du Pau. Enfin, je donne un ordre à la personne qui administre au plus près le village. Donc, je lui donne un ordre dans la langue qu'il comprend et que ses administrés vont comprendre. Ça permet aussi d'intégrer l'ordre dans comme s'il venait de lui-même. Il n'y a pas de médiation entre la langue du roi et la langue de sa population, où qu'elle soit. Donc effectivement, c'est un usage éminemment politique. Du coup, il n'y a pas grand monde qui sait le faire. C'est très intéressant parce que lorsque Giovanni Pontano, par exemple, écrit duc d'Amalfi, c'est pas très très loin, hein. Il ne peut lui écrire qu'en vulgaire napolitain. Alors, il essaie un petit peu de mettre du latin, etc., mais lorsque les réponses lui parviennent, c'est strictement en napolitain. Il n'arrive même pas à écrire un vulgaire italique de la péninsule italienne qui soit compris au nord on va dire, de la zone Abruzze, Latium, de cette zone-là. Oui, c'est un usage éminemment politique de la. C'est pas très nouveau.
Jérémy, si tu nous entends.
Oui, je vous entends et j'aimerais réagir à cette question et puis à ce que Florence vient de livrer, que je trouve très intéressant. Si je reviens un tout petit peu sur ce fameux tableau de la conférence de Somerset. Il y a aussi la question de la compétence. Quand on doit traiter d'enjeux à des échelles aussi importantes, eh bien, en effet, il y a des problèmes de compétences linguistiques qui se posent. Je voulais vous proposer une toute petite lecture très courte de la lettre que le prince-comte d'Arenberg envoie à l'archiduc Albert en le 8 août 1603. Justement, il est chargé de traiter avec les Anglais et... Comme je vous l'ai dit, en effet, nous sommes sur un agenda mal ajusté entre les intérêts castillans, espagnols plus généralement, et les intérêts flamands. Voilà ce que déclare Arenberg, qui est un grand seigneur. Jusqu'ici, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais plus avant, je confesse à votre Altesse, encore que la volonté et zèle au service d'Issel ne peut être plus grand, entrant plus avant en matière, je ne me voudrais fier à moi-même seul. Car je promets à votre Altesse qu'il était cet après-dîner à trois discourant et me retournant tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, leur discours que j'y perdis quasi le nord, car tantôt l'un parlait français, l'autre italien et le troisième latin, à quoi je rendis les abois. Donc, il y a aussi une question de compétence linguistique, il y a aussi une question de compétence même technique, je dirais, technique dans la mesure où ces matières dont tu as parlé également, Nicolas, qui se traitent, sont en partie chiffrées parfois, donc on n'a pas toujours les tables de chiffres, ça aussi c'est une des langues, hein, une des innovations linguistiques que la cryptographie qui se met en place dans les papiers d'État au XVIe siècle. Et donc, il y a ces questions de compétences qui doivent être augmentées. En effet, leur usage est politique, mais en même temps, il y a aussi la question de l'expertise, et notamment de l'expertise linguistique qui se pose. Je ne sais pas ce que Florence en pense, peut-être si elle veut réagir, mais ou si Jean ou Raphaël ont des choses à dire sur ce point-là.
Moi, je vais réagir avec une petite boutade, c'est-à-dire qu'effectivement, tu parles du chiffre, j'en ai pas parlé, mais lorsqu'on traduit, on a certaines lettres où on ne comprend rien, mais rien. Et on comprend tellement peu qu'on se dit « c'est pas possible, la lettre est chiffrée ». Et en fait, elle n'est pas chiffrée, c'est juste qu'on est sur des compétences linguistiques un peu oubliées, tellement régionales, voire municipales, qu'on ne les connaît pas. Et alors, je vous donne un exemple très simple. Pour envoyer quelqu'un, comme on dirait aujourd'hui, je t'envoie au diable vos vers, c'est andare a Francolino. Bon, ben, Francolino, c'est un tout petit village à côté, dans la plaine du Pô, vers Mantoue. Enfin, je l'ai trouvé très très difficilement avec des cartes anciennes, etc. Il a dû disparaître dans une crue du Pô quelconque, etc. Et donc, mandare qualcuno a Francolino, ça veut dire aller se faire voir. Bon, bah, je me suis posé longuement la question de savoir si c'était pas chiffré. Bah, non, c'est juste qu'on a perdu le référent. Et ça, cette idée de compétence et d'expertise linguistique, c'est aussi. Alors, elle existe aussi.
À l'ensemble donc, des intervenants. Je vous remercie pour la précision du propos, et qui est peut-être d'ordre général, mais je me demandais, peut-être sur le paradoxe de l'œuf et de la poule, est-ce que la forme nouvelle de gouvernement à distance transforme la nature du gouvernement, ou est-ce que c'est la transformation, bien évidemment, de ce type de gouvernement qui implique effectivement un formalisme nouveau de la relation entre gouvernant et gouverné, puisqu'on passerait effectivement dans un système, un paradigme plutôt féodal, celui de la proximité, celui de la manutention, celui effectivement du serrement de main, et donc bien évidemment de l'intimité partagée entre une autorité et les subalternes, avec un espace effectivement de médiation qui élargit par elle-même peut-être la relation à l'intimité du pouvoir. Donc je ne sais pas comment dans vos espaces respectifs, cette relation dialectique entre la forme et la nature du gouvernement s'articulerait.
Avant de donner la parole à mes collègues, est-ce que je peux donner une anticipation de réponse à la question, à mon avis, très intéressante qui vient d'être nous posée, en faisant référence à deux épisodes des histoires de Thucydide. Pendant la guerre du Péloponnèse, il y a eu deux rébellions des villes soi-disant alliées d'Athènes. Mileto, l'île de Mileto, et Milos, l'île de Milos. Thucydide en parle dans les livres 3e et 5e des histoires. Et conclusion de ces deux rébellions est très différente. Il y a une longue échange diplomatique entre Milet et Athènes, et à un moment donné, Athènes arrive à faire un traité de paix, à reprendre le contrôle de Milet sans la détruire. En revanche, comme on sait à la fin du 5e livre des histoires des Thucydides, Milos sera détruite entièrement par Athènes, comme une forme même d'exemple de ce qui va se passer quand quelqu'un a commis une trahison, a abandonné la Ligue. Dans un cas comme dans l'autre, il y a des envoyés, on peut dire des agents diplomatiques d'Athènes qui sont là, qui ont déjà gagné d'un point de vue militaire les contrôles de l'île et qui attendent les ordres d'Athènes. Et il y a un échange de correspondances. Donc on est à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ et il y a déjà un échange de correspondances écrites pour recevoir les ordres de la part de la boulée
afin de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. On doit les massacrer tous, ou on peut laisser quelqu'un vivant, on peut faire un acte de pitié, quelque chose pareil. Donc, le fait de gouverner à distance, ce n'est pas vraiment une nouveauté de l'époque moderne. C'est simplement qu'on a beaucoup plus de documentation pour l'époque moderne, bien évidemment.
Oui, moi, je vais peut-être, par rapport à cette question-là, je dirais qu'on est dans une forme d'hybridation, en fait, parce que on voit très clairement que l'intégration dans le cadre d'un espace qui est éclaté, déjà même en fait au XVe siècle, va permettre de créer des cadres institutionnels sur lesquels on va s'appuyer au XVIe. Puis il ne faut pas oublier non plus, par exemple, dans le cadre des Pays-Bas, que Charles Quint naît à Gand, à la différence, par exemple, de ses successeurs. Donc il y a aussi un rapport davantage filial, je dirais presque émotionnel, en fait, avec ces territoires, le respect de leurs prérogatives, de leurs particularismes, si on peut le dire comme ça, qui implique aussi que l'on va s'appuyer sur les institutions et ce substrat, en fait, qui existe. Même si c'est évident que l'intégration dans les territoires, dans un complexe institutionnel qui tend à devenir profondément mondial au cours du XVIe siècle, va évidemment avoir dans le chef, on va dire, des Pays-Bas sans doute, enfin des représentants des territoires restés fidèles à Philippe II, l'impression qu'on est relégué, qu'on est mis un petit peu de côté, alors qu'il y a évidemment du côté de Madrid des gens qui disent ces territoires-là, on ne peut pas non plus complètement les abandonner, vu qu'Anvers, durant le premier tiers du XVIe siècle, est sans doute la ville économique par excellence en Europe du Nord et qui sert de relais, en fait, pour l'ensemble des biens vers l'Europe, vraiment l'Europe du Nord et scandinave, etc. Et puis, l'idéal également, l'idéal institutionnel et politique, même dans le cadre de la révolte opposée à Philippe II, rejaillit un idéal médiéval. Donc, par exemple, dans ce que l'on a appelé les républiques urbaines à la fin des années 1570, enfin 70 jusqu'au début des années 1580, on voit que ces villes qui sont plutôt à dominance calviniste vont réintégrer par exemple traité du XIVe siècle, parce que on a un retour à cet idéal, mais qui est aussi d'une certaine manière idéal, de la manière dont on avait de gouverner, ce rapport avec un prince qui respecte ses sujets, etc. Donc on est à la fois à la fin du XVIe siècle dans une phase vraiment de tension et d'opposition avec un prince que l'on a, pour ainsi dire, jamais vu que Philippe II, il est parti au début des années 1560 des Pays-Bas, et donc on est là avec une sorte de modernité politique, en quelque sorte, mais au final, on réactive des schémas politiques, institutionnels ou même juridiques qui renvoient au XIVe, XVe siècle. Donc là, on ne peut pas dire qu'il y a un saut quantique ou autre du Moyen-Âge à une époque moderne ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt qu'on voit clairement qu'il y a une hybridation et qu'on ne fait pas table rase du passé pour complètement créer quelque chose d'autre. Je ne sais pas si Jean avait...
Moi, j'apporterais juste une... Enfin, je suis tout à fait d'accord, juste une remarque. En ce qui concerne, par exemple, les cardinaux d'Est, en fait, il y a, pour la chancellerie des ducs de Ferrare, comme la plupart de ces chancelleries italiennes, il y a une refonte, en fait, de la chancellerie, de la manière d'écrire des lettres, de les archiver aussi, et de les conserver. Et, par exemple, que vont décalquer les cardinaux de la famille d'Est dans leur propre pratique de chancellerie. Alors, en effet, on est tout à fait dans des logiques... ancienne, alors soit féodale, soit qui remonte à ces états composites ou transrégionales. Mais après, il y a quand même de nouvelles, cette inflation de papier, ce monde de papier qui demande à être organisé. Et là, ça fait appel à des nouvelles méthodes d'organisation. C'est d'autant plus important à Ferrare que, avec la dévolution de Ferrare en 1598, il y a une réorganisation la totale des archives. Selon des logiques encore plus modernes, mais en fait le XVIe siècle, Ferrare, mais comme Mantouan, et une perpétuelle réorganisation justement au moins de ces archives, si ce n'est de la chancellerie. Mais
je sais que Jérémy veut faire une intervention.
Alors très très rapidement pour laisser la parole à tout le monde et à la salle d'abord et avant tout. Moi j'ai été très intéressé par cette question que vous avez posée, monsieur, malheureusement, je ne vous ai pas entendu, Raffaele. Je suis intéressé, mais en effet, la question de est-ce que c'est la distance qui va créer l'inflation documentaire ou est-ce que l'inflation documentaire la permet, c'est des questions intéressantes. Je pense qu'on est vraiment plutôt dans une logique de compartimentage. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de structuration des arcanes du pouvoir, à la manière de Philippe II qui s'enferme dans sa chambre, à la manière d'Henri III qui, alors que tout est quasiment perdu, passe des nuits entières dans son cabinet à écrire des mémoires sur les ordres religieux avec quatre commis. C'est très intéressant de voir que à la fois en effet il y a une forme de publicité du pouvoir, de publicité de l'écrit, de manifestation de la gloire, et puis en même temps il y a une forme de retrait. Il y a un retrait dans le cabinet, il y a un retrait dans les arcanes du pouvoir. Donc ça dépend vraiment de ces moments de crise. Après vous avez dit une chose sur le rapport dialectique en effet du gouvernement féodal. Ce qui est intéressant au XVIe siècle, pour nous, nous sommes tous attachés à ce siècle, c'est qu'on passe peut-être d'un gouvernement pastoral à un gouvernement qui est plus une monarchie administrative de justice et de finance au premier XVIIe siècle. Moi, je suis assez attaché à cette idée-là. Je pense que les crises politiques, les crises géopolitiques, la crise religieuse, comme le dit Michel Daubry dans sa sociologie des crises politiques, peuvent être créatrices. Beaucoup plus que destructrice, elle est créatrice, puisque les administrateurs, les acteurs ne peuvent pas forcément jouer au jeu auquel ils sont habitués, c'est-à-dire le jeu du gouvernement pastoral, le jeu de la féodalité, et donc vont devoir trouver et inventer en marchant, trouver de nouveaux outils. Et je pense que l'écrit politique en fait partie. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on voit que dans cette monarchie administrative du premier XVIIe siècle, ceux qui ont été les manutentionnaires de cette forme de distanciation, ou cette possibilité de distance en tout cas, qui étaient des agents techniques hein, dans les années 1540-1550, au début au premier XVIIe siècle, ne sont plus du tout des agents techniques, ce sont des agents politiques de tout premier ordre. Notamment, et moi je trouve ça très intéressant sur le tableau que je vous ai proposé du traité de Londres, vous avez quand même Lord Cecil qui est un immense noble, extrêmement titré, qui se fait représenter avec un écritoire, une plume devant lui. C'est très intéressant de ce point de vue-là. 40 ans plus tôt, un secrétaire ne se ferait pas forcément représenter avec une plume, avec de l'encre et avec du papier. Mais 40 ans plus tard, quand la position est assurée, c'est le cas de Lord Cecil, c'est le cas de Richelieu écrivant également, très beau tableau conservé au rectorat de Paris, eh bien, Richelieu se fait représenter avec un bâton de cire, un écritoire, une plume, il est au travail. Donc, c'est intéressant de voir finalement que le papier va faire son émergence aussi dans l'iconographie et dans la documentation iconographique. Ces manutentionnaires de la distance, que sont les secrétaires, que sont les courriers, que sont les administrateurs, pour le dire d'un mot, vont eux-mêmes utiliser ces crises politiques pour affermir leur position. Voilà, la question de le fou la poule, je pense qu'on est dans un vrai moment de passage au XVIe siècle, un moment de crise, hein, comme c'est souvent dit, et la distance et le papier politique vont justement permettre à un nouveau groupe sociopolitique d'émerger. On est dans des expertises qui sont des exercices concurrentiels. On est dans des agendas qui sont des agendas concurrentiels entre les différents groupes sociaux. C'est pour ça que c'est un siècle si passionnant.
Si je peux, je rajouterais peut-être quelque chose, encore une fois, par rapport à cette question-là. C'est que les évolutions sont parfois visiblement aussi fonction de la mobilité des agents. Dans le cadre, par exemple, des Pays-Bas, ça fait peut-être un peu tarte à la crème, évidemment, de dire ça, mais durant la seconde moitié du XVIe siècle, le Conseil d'État à Madrid fonctionne rapidement sur base de consultes, c'est-à-dire un résumé d'une affaire, on débat de celle-ci, on fait un résumé, comme ça le souverain voit un petit peu les échanges, et sur cette base-là, eh bien, il peut prendre la décision. Dans les Pays-Bas, ça n'existe pas. On n'a pas, à la même époque, de façon vraiment simultanée, la réalisation de ce type-là de décision. Et si vous étudiez le processus décisionnel au niveau des Pays-Bas, c'est un peu compliqué de se retrouver dans la documentation, les différents secrétariats, etc. etc. Et puis, début du XVIIe, c'est après la cession des Pays-Bas, en fait, par Philippe II à sa fille, l'infante Isabelle, sont les archiducs, archiduc Albert et donc Isabelle. Et là, on voit que tout d'un coup, il y a l'apparition de la consulte dans la façon de travailler. Albert, l'archiduc Albert, c'est quelqu'un qui a pratiquement vécu toute sa vie à Madrid, près de Philippe II, qui, jusqu'à très tard dans son règne, n'a pas d'héritier et qui voit presque l'archiduc Albert, d'une certaine manière, potentiellement comme quelqu'un qui va pouvoir prendre des fonctions très, 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 très grandes. Il est vice-roi du Portugal de 1583, si je ne m'abuse, jusqu'à 1592. Il intègre ensuite un conseil qui permet de chaperonner le futur Philippe III, et donc il est imprégné aussi d'une manière de prendre des décisions, et quand il arrive aux Pays-Bas en 1595, bah, il n'est pas encore marié à l'infante Isabelle, mais à partir du moment où il est gouvernant avec elle, on voit qu'il y a une sorte d'hispanisation ou castianisation en quelque sorte de certaines pratiques qui n'étaient absolument pas présentes 30 ou 40 ans auparavant, de même que pour les Pays-Bas, il n'y a pas un conseil des Pays-Bas à Madrid comme il y en a pour d'autres territoires. Celui qui est créé n'est créé qu'en 1588 et ne prend des décisions entre guillemets que sur des questions de grâce, de nomination, de personnel, etc. Donc il y a à la fois des évolutions mais aussi des évolutions de pratique, et on voit que ça renvoie parfois sans nul doute à une mobilité aussi de personnes, et en tout cas il y a des idées fluides comme il y a des pratiques, et on voit la seconde moitié du XVIIe, la consulte, c'est même en espagnol rédigé à Bruxelles, parce que les gouverneurs généraux à Bruxelles dans la seconde moitié du XVIIe, c'est plus un poste très reluisant, on envoie des castillans, des espagnols qui ne parlent absolument pas français, qui ne comprennent absolument pas le néerlandais non plus, donc on est obligé de leur faire des résumés en espagnol de ce que les flamands décident, les brabançons décident, etc. Donc on voit que là, il y a des pratiques qui évoluent, des actions, des manières de faire qui sont des influences de Madrid, visiblement aussi, mais en même temps, voilà, il faut quand même aussi un peu respecter les prérogatives et les particularités de ces territoires.
Merci. Je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question. On est vraiment prêt.
Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. De forcer personne.
Oui, c'est ça.
Dans quelle mesure est-ce que les envoyés par les souverains, donc du vicaire jusqu'au vice-roi, devaient-ils rendre des comptes physiquement, parfois, je veux dire, et ça pose la question de leur mandat quand ils sont envoyés, est-ce que les zones autonomiques est proportionnée avec la distance de la province par rapport au gouvernement central Ça peut aussi poser la question des disloyautés qui se sont produites éventuellement.
Florence, Jérémy, vous avez entendu ? Question de loyauté, rendre les comptes quand on est gouverneur général, vice-royauté, c'est compliqué, il y a du pouvoir discrétionnaire ou pas ? Quelque chose à dire là-dessus ? Il faut débrancher ton micro.
Alors, peut-être que Florence pourra soutenir un certain nombre de choses dessus. Sur la reddition de comptes, ce qui est intéressant, et ça c'est quelque chose qui a été bien montré par Olivier Poncet, la reddition de comptes au XVIe siècle, fin XVIe, début XVIIe siècle, c'est intéressant, elle est quasiment immédiate, on lit comme un livre ouvert dans les relations diplomatiques des ambassadeurs qui reviennent, on publie quasiment... pas très rapidement en tout cas les relations. C'est un genre d'écrit qui circule beaucoup. Et puis progressivement, dans les années 1620, 1630, on va arrêter. On va arrêter, on se rend compte que cette organisation d'une forme de Wikileaks institutionnalisée, qui en fait sont aussi faites pour assurer et solidifier les positions des ambassadeurs, les positions sociopolitiques des ambassadeurs eux-mêmes, on se rend compte que c'est pas une très bonne idée, hein, pour un certain nombre de raisons. Il vaut mieux que les affaires qui se traitent dans les arcanes de l'État reste secrète. Donc, la reddition de comptes, elle se pratique de cette manière-là, donc publique, on en discute. Autre élément, pour essayer de l'exprimer pas trop mal, les envoyés, les ambassadeurs, les représentants, les agents des partis, rendent évidemment des comptes à l'autorité souveraine qui les mandate, mais ils ont aussi une position très importante dans des systèmes et dans des réseaux qui sont des réseaux familiaux, des parentèles élargies. Par exemple, quand Villeroy, qui est secrétaire d'État des Affaires étrangères et de la guerre, écrit à M. de Castelnau-Vicière, quand il lui écrit, il lui dit en fin d'une lettre assez compliquée, assez technique, où il parle de remboursement de prêt pour la reine d'Angleterre, il lui dit « Je ne vous dirai rien de ma femme, je crois que elle a vu la vôtre et elle vous a porté des nouvelles de notre famille. » Alors, je me suis beaucoup demandé pourquoi il écrivait ça. Je ne vous dirai rien. Là, c'est intéressant de voir les secrétaires qui écrivent pour dire « je n'écrirai pas ». Eh bien, en réalité, c'est qu'il lui rappelle qu'ils sont parents. Il lui rappelle qu'ils sont parents et que le service qui doit être effectué pour le service du roi de France à Londres n'est pas seulement pour le service du roi de France, mais c'est aussi pour servir le clan, comme l'appelle Damien Fonvielle, le clan des Bochtel, le clan des Lobépine, le clan des Villerois, des Neuville-Villerois. Donc, c'est très intéressant. La reddition de compte, elle ne se fait pas seulement à l'autorité souveraine, elle ne se fait pas seulement au secrétariat. Elle se fait aussi dans des réseaux de parentèle, qui sont des réseaux de parentèle élargis, avec des... on reboucle les engagements. Non seulement on est ambassadeur, mais aussi on est membre de tel ordre, et puis on est parrain, ou on est marraine de tel ou tel. Et puis voilà, il y a des liens qui sont extrêmement solides. Donc, on rend compte... Mais en réalité, on vous rappelle en permanence que vous êtes là pour porter les intérêts d'un clan, d'une parentèle, d'un réseau. Voilà, je ne vais pas avoir été trop long.
Alors, je vais, si je peux, je vais prendre la main parce que ça me permet. En fait, j'allais rebondir sur j'allais botter en touche sur la question pour renvoyer à Raphaël, et qui est quand même le grand spécialiste des écrits diplomatiques et qui a sorti un très beau livre en 2018 sur Castiglione et ambassadeur en Espagne. Donc je pense qu'il pourrait nous répondre, parce que sur la question que vous avez posée stricto sensu, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. En revanche, la réponse de Jérémy me permet d'appuyer effectivement dans ces réseaux de l'Italie du second 15e siècle, tout le monde est cousin, frère, sœur, et la dynastie hispanique qui arrive en 1442, bon, elle est plus ou moins là depuis 1423, hein, mais on va dire qu'en 1442, elle se fixe, et la première chose qu'elle fait, c'est italianiser son prénom, se marier avec des princesses milanaises, des princesses, voilà, y compris des Florentins, et la première chose qu'elle fait, c'est s'ancrer dans une italianité qui lui fait défaut par les liens familiaux. Les liens familiaux, vraisemblablement Ferdinand d'Aragon voulait être roi d'Italie, il avait les moyens, il avait tout ce qu'il faut, c'est les autres qui ne voulaient pas, mais vraisemblablement le projet c'est d'abord de devenir un prince italien, c'est-à-dire de s'ancrer dans cette italianité, et ça commence, effectivement, techniquement on a la langue, mais symboliquement on a les mariages, toutes les lettres commencent par mon frère, mon cousin, mon frère, ma sœur. Et ce sont d'ailleurs des frères et sœurs, hein. Ce sont effectivement des frères et sœurs. Lorsqu'on écrit à Francesco Sforza, on ne va pas lui écrire mon cousin, on va lui écrire « je vous écris de la part de votre sœur » pour lui rappeler qu'on est dans des liens familiaux vraiment de très, très, très proches. Et donc là, ça me permet de reposer la question à Raphaël, et si je peux entendre sa réponse qui serait très intéressante.
Alors, je vais m'approcher, sinon Florence n'entendra presque rien. Je dois remercier Florence de m'avoir tourné la question, mais en fait, je ne suis pas du tout expert. C'est simplement que je crois que la question qui nous a été posée maintenant concernant l'effet de rendre compte et de le faire d'une façon officielle au retour d'une mission diplomatique ou au retour d'une tâche de gouvernement extérieur est une question double. D'un côté, c'est l'action de l'ambassadeur qui doit rendre compte de sa mission, s'il a accompli sa tâche, s'il a bien représenté son prince. Et je crois que la raison pour laquelle Florence m'a renvoyé à Laval, c'est bien évidemment le fait qu'à un moment donné, le pape Clément VII dit à Castiglione « Bref, la faute du sac de Rome, c'est à toi ». Et Castiglione, pour la première fois dans sa vie, se trouve dans la position de devoir se justifier par rapport à un pape. Et il dit « Je n'oserai jamais écrire à sa sainteté pour me justifier, mais cette fois-ci, je me sens obligé de le faire ». Et donc, en décembre 1527, il écrit une longue lettre dans laquelle il dit « s'il y a quelqu'un qui est coupable du sac de Rome, messieurs les papes, c'est vous. » Il le dit très, très amablement, mais il le dit. Et d'autre part, en revanche, il y a la question que je crois Déjà dans la réponse de Nicolas qui avait été donnée à la question précédente, revenait à savoir les différentes pratiques de gouvernement à distance et donc une différenciation des traitements par rapport à ceux qui reçoivent une tâche de gouvernement. Donc, s'il doit rentrer en Espagne, par exemple, ou ailleurs, après un an, il doit bien évidemment rendre compte. Mais ça devient beaucoup plus compliqué, j'imagine, avec la Nouvelle-Espagne. Ça va devenir...
Et moi, j'ai surtout en tête le cas des Pays-Bas de 1580 à 1592, où là, il y a un seul gouverneur général, Alexandre Farnèse, qui est d'ailleurs le fils d'une ancienne gouvernante générale. Et il arrive en héros militaire de pacification en 1580 et en 1592, quelques mois avant de mourir, Philippe II envoie quelqu'un pour le chasser du gouvernorat général parce qu'il y a une tension beaucoup trop forte. Farnèse est en quelque sorte le grand Manitou. Son secrétaire personnel est vraiment celui qui est un peu le Kapellmeister des décisions, etc., qui garde un certain nombre de papiers sur la décision aussi. Et en fait, là, on passe vraiment de la lumière à l'ombre, une déchéance complète politique d'Alexandre Farnèse. Et donc là, on voit vraiment une évolution assez... Le cas emblématique qu'il faut quand même rendre des comptes aussi d'une certaine manière, et que si ça ne va pas, même de Madrid, on peut envoyer quelqu'un pour... vous déchoir de votre autorité.
Je crois qu'on a même abusé de votre patience, donc vraiment, merci d'avoir participé à cette table ronde, à cette présentation, à cette séance, et j'espère que les fils rouges n'ont pas été trop cachés parmi les différentes interventions. Et je vous souhaite une très belle prosecution des présentations et du rendez-vous de l'histoire à Blois. Merci. Merci.
Nous avons levé la séance.
Ok. Merci beaucoup.
Voilà. J'espère que ça a été de votre côté. Attendez,
c'était le mieux possible.
Oui. Voilà.
Voilà. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on voyait quelque chose à l'écran? Vous, de votre côté, est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que le diaporama est bien passé, etc.?
Oui, à un moment on a perdu Jérémy, mais il est revenu. Et voilà, c'est quand même pas idéal de faire une présentation là comme ça. Et on a fait du mieux que l'on pouvait. En tout cas,
non, mais pour nous, c'était très bien. Hein. C'est okay. Parce que on vous a plus ou moins.
Questions-réponses qui sont toujours. Voilà, il y a Raphaël qui est là.
Bonjour Raphaël, merci.
Merci.
Bon après-midi Florence, bon après-midi Jérémia, c'était un plaisir merci. De vous retrouver même à distance.
Merci
bon, merci. Beaucoup.
Bon rendez-vous. Merci je t'appelle sinon.
Pardon
je t'appelle avec le téléphone.
Merci pour votre présence. Merci, bon après-midi.
Merci, au revoir, merci encore.
Au revoir, hein. Salut et bon courage.
Il faut faire une statue à Nicolas parce que c'est lui qui l'a géré.
Oui, je sais. Merci Nicolas, au revoir à tous.
Merci, au revoir à tous.
Salut, hein. Ciao. À tout bientôt. Voilà.
Au revoir,
merci à vous.
C'est un plaisir de se rencontrer.
Oui,
nous avons beaucoup d'intérêts en commun.